Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère sur le 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum. Nous sommes en direct de 19h à 20h et nous donnons comme chaque semaine la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Sachez que vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h sur Radio Galère ainsi que en podcast sur radiogalère.fr dans la rubrique Ecoforum et sur Deezer et Spotify si vous cherchez La Forêt des Possibles. Qu'est-ce que c'est que cette Forêt des Possibles ? La Forêt des Possibles, c'est un projet de société qui invite chacun et chacune à trouver sa juste place dans une société écologique et solidaire. Qui dit chacun et chacune dit vous qui nous écoutez à la radio, auditrices et auditeurs, ainsi que toutes les personnes que nous avons chaque semaine à notre micro et qui témoignent des questions qu'elles se sont posées, les valeurs qui sont les leurs et ensuite qui ont construit des projets qui visent à pouvoir faire en sorte que nous puissions continuer à vivre dans une société pérenne pour aujourd'hui et pour demain en se concentrant sur Marseille. Et ensuite, nous discutons la façon dont ces projets, à leur échelle, participent à transformer le monde. Et parfois, on se dit que tout seul, c'est un peu compliqué tellement les enjeux sont vastes. Mais semaine après semaine, nous donnons la parole à des acteurs divers et variés et tel plein de petits colibris participent à leur échelle à réellement transformer cette société et former une grande forêt. C'est ce que nous essayons de montrer parce que ces projets viennent se mailler les uns avec les autres. Donc vous qui nous écoutez, ce que nous vous proposons comme chemin, c'est de pouvoir écouter les parcours, les questions qui sont celles des invités que nous avons, quels sont les projets qu'ils ont faits et ensuite comment est-ce que ces projets participent à transformer la société. Ce soir, ce sera Claire qui sera votre animatrice en chef pour la première fois et on est très content de te recevoir et de t'avoir dans notre équipe depuis maintenant 2 semaines. Claire, bonsoir.
Bonsoir Marin, merci pour l'introduction.
Voilà, et je te laisse la parole pour continuer et présenter les invités du soir.
Oui, alors pour commencer, je suis ravie de faire partie de l'équipe de la Forêt des Possibles et d'animer ma toute première émission sur Ecoforum, sur Radio Galère. Pour ma toute première, donc on va parler du plastique, une émission qui s'annonce fantastique. Donc le plastique, cette matière qui est omniprésente dans notre société, surabondante, avec ses effets néfastes aussi sur la biodiversité, sur l'environnement, pollution des sols, des eaux, de l'air. Et ça, ce sont des sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec Sauvage Méditerranée, cette association qui agit face à ce problème. Bonsoir Sébastien, bonsoir Louis, bonsoir Adélaïde.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et aussi présenter comment, nous dire comment vous avez rejoint l'aventure Sauvage Méditerranée ?
Alors, enchanté, moi c'est Louis. Donc, je suis rejoint Sauvage Méditerranée en 2021, pardon. À la suite du confinement et à la suite d'une fin de contrat. Donc je me suis dit qu'il était temps de changer un peu de comportement avec le plastique. Et là où j'en avais produit et transformé beaucoup en industrie jusqu'en 2021, j'ai commencé à en recycler beaucoup à partir de 2021 quand j'ai rejoint Sauvage Méditerranée en tant que bénévole.
Ok, intéressant de savoir que tu es passé de producteur à recycleur de plastique.
Sache que c'est quelque chose qui est malheureusement partagé par moi aussi autour de cette table pour avoir travaillé pendant pas très longtemps avant d'en démissionner, mais dans une structure qui produit beaucoup de bouteilles en plastique. Donc nous sommes des repentis, j'ai l'impression.
Plein de reconversions autour de cette table. Qui prend la suite ?
Donc moi, bonjour à tous, c'est Sébastien. Moi, je suis l'actuel président de Sauvage depuis 2 ans. Moi, j'ai un métier où j'accompagne des entreprises dans la transition écologique via des démarches RSE. Et en fait, je voulais un engagement associatif qui soit plus fort et qui aille au-delà, qui soit plus sur le terrain et un peu plus concret que de faire du conseil. Et donc, j'ai commencé un peu à filer des coups de main à Manu comme je pouvais, Manu le fondateur que j'avais rencontré, des ramassages de déchets ou autre. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, en 2020, il m'a proposé de prendre la présidence de Sauvage pour que lui devienne salarié et continue l'aventure de manière encore plus engagée.
Super, merci en tout cas d'être là et d'avoir répondu favorablement à mon invitation que je t'ai lancée il y a quelques semaines de ça. Donc vraiment ravi de vous recevoir ce soir pour ma première.
Avec plaisir.
Bonjour, moi c'est Adélaïde. Ça fait pas très longtemps que je suis chez Sauvage. J'ai fait des études dans la plasturgie, donc tous les procédés de transformation du plastique. Et j'avais envie de trouver quelque chose qui ait du sens dans mon travail futur. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Sauvage et que maintenant je suis partie de l'équipe.
Ok, et ça fait combien de temps que tu es dans l'équipe ?
J'ai fait 6 mois de stage et là, ça fait quelques mois que je suis embauchée.
Ok, félicitations en tout cas pour ce poste. Merci. Et on en profite pour remercier Gillian qui est en régie. Merci pour la coordination.
Avec plaisir.
Alors, attaquons le vif du sujet. Sauvage Méditerranée, vous avez une action sur la Méditerranée, cette mer qu'on appelle aussi le berceau des civilisations. Et c'est cette mer qui concerne 22 pays, 3 continents, et qui est considérée comme l'une des mers les plus polluées au monde, notamment à cause des déchets plastiques, mais aussi à cause des hydrocarbures liés aux activités de la pêche, du tourisme, le transport maritime. Et alors, j'ai quelques chiffres à vous partager. C'est selon une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, il y aurait 1,2 million de tonnes de déchets plastiques à la surface de la mer Méditerranée. Il y aurait aussi 230 000 tonnes de déchets plastiques par an qui sont déversés dans la mer Méditerranée. Ce sont des chiffres vertigineux. On n'arrive pas vraiment à se rendre compte de quelle quantité ça représente. En parallèle de ça, il y a le fondateur de Sauvage Méditerranée, Manu, qui lui est allé sur le terrain, ou je devrais même dire sur la mer Méditerranée, pour constater tous ces déchets. Est-ce que vous pouvez me raconter comment il en est arrivé à créer Sauvage Méditerranée et quel a été ses constats, son cheminement pour en arriver là ?
Alors en fait, exactement en 2017, Manu est arrivé il est arrivé en 2015 à Aix-en-Provence. Et donc, il a commencé à beaucoup, beaucoup nager en mer et il s'est rendu compte du problème de pollution. Donc, il s'est pris des sacs plastiques dans la tête, concrètement. Et donc, en 2017, il s'est lancé le défi de faire une nage de Marseille à Toulon, donc 120 km, en 15 jours. Et de ramasser une grosse partie des déchets qu'il va croiser sur sa route, que ce soit en surface ou dans le fond de la mer.
Comment il les ramassait exactement ?
En apnée.
En apnée.
En nage. Il nageait, et il ramassait, il les remontait, et en fait, il était suivi par deux kayakistes qui récupéraient ses déchets, et donc faisaient des pesées tous les jours, et il en arrivait à un constat, en arrivant à Toulon, à plus de 120 kilos de déchets, donc c'est plus d'un kilo par jour, un kilo par kilomètre. Et donc là, il s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces déchets ?
Sachant qu'on parle de plastique, donc qui est plutôt léger, donc il faut se dire que 120 kg, c'est énorme en volume.
Heureusement qu'il ne les tirait pas à la nage, d'ailleurs. Heureusement qu'il y avait ses kayaks.
Exactement. Et donc ensuite, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets ? Et dans un second temps, il était très proche d'une association Palana Environnement qui lutte pour le ramassage des filets fantômes en mer et qui cherche un peu des exutoires pour ces filets ramassés en mer, donc des filets fantômes.
Les filets fantômes, peut-être pour préciser, c'est des filets qui sont perdus ou abandonnés par les pêcheurs et qui continuent à attraper des poissons parce que c'est leur rôle de base et qui sont très très nocif pour la biodiversité, qui concrètement les poissons restent bloqués dedans, donc peuvent plus bouger, peuvent plus les se nourrir. C'est une torture pour plus les respirer, et ça peut être aussi dangereux pour les plongeurs et les apnéistes, donc clairement un fléau et un danger pour la biodiversité, voire pour les humains.
Ok, ouais.
Voilà, et donc merci Sébastien. Et dans un souci de revalorisation, Manu s'est dit, on va essayer de créer une structure qui va prendre en charge ces déchets et essayer de leur redonner une valeur, plutôt que de mettre tout ça à la benne. On va essayer de faire quelque chose. Et donc, il a créé Sauvage Méditerranée en 2019.
En 2019. Voilà. Donc, cette association a donc 5 ans, si mes calculs sont corrects.
Bientôt.
Bientôt 5 ans. Et donc, à ce jour, comment vous collectez les déchets plastiques ? J'imagine que vous ne faites pas des Marseille-Toulon à la nage toutes les semaines pour récolter tous ces plastiques. Combien vous en avez comment vous les collectez ? Combien vous en avez ? Sous quelle forme ça vous arrive ? Qu'est-ce que vous en faites ensuite ? Dans quelles conditions ? Beaucoup de questions.
On peut peut-être partir sur la première étape, c'est comment est-ce qu'on les collecte. En fait, nous, on est une asso et on a 30 assos partenaires entre Menton et Montpellier en passant par la Corse, donc une bonne partie du littoral méditerranéen français. Ces assos, par exemple à Marseille, c'est Clean Mike Alank, Un déchet par jour, etc. Il y en a plein qui font un travail incroyable de ramener des bénévoles et de leur faire ramasser des déchets. Soit dans la rue, soit sur les plages, soit dans les calanques, en tout cas avant que ça arrive dans la mer, ou même voire de sortir de la mer pour une partie d'entre elles. Et après chaque ramassage, les déchets sont caractérisés, les canettes, le verre, les bouteilles en plastique, le bouchon en plastique, etc. Et nous, on récupère surtout, principalement, les bouchons en plastique. Donc en fait, ces assos-là nous ramènent, on les récupère à notre atelier ou pendant des ramassages, des sacs entiers de bouchons en plastique qui viennent des plages. Et qui donc ils sont sortis de la nature et après ils vont revaloriser.
Tu parlais de caractériser des déchets, est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire ?
Bien sûr, ça veut dire qu'en fait on va comprendre, c'est ce qu'a fait Manu entre Marseille et Toulon en agence, c'est comprendre ce qu'il y a comme déchets, donc les caractériser et voir les peser pour savoir qu'on a ramassé à tel endroit tant de kilogrammes de canettes dans tel matériau, tant de kilogrammes de bouteilles de tel matériau, etc., etc. Ce qui permet d'une part de les revaloriser soit avec nous, soit via les filières classiques de revalorisation.
Et c'est surtout qu'à plus grande échelle, l'ensemble des associations sur le littoral méditerranéen caractérise de la même façon. Mmh. Et on a une base de données du type de déchets et de la quantité de déchets récupérés à chaque endroit. Pardon.
Voilà, et le déchet qui est donc ensuite utilisé comme une valeur, puisque c'est le mot que vous employez, et non pas comme une fin de cycle qui doit finir dans la mer, comme un fleuve qui termine dans la mer, mais le début d'un nouveau gisement pour une deuxième vie. Je vous laisse continuer là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup dans nos émissions de semaine en semaine avec des personnes qui parlent de ces questions de circularité par différents biais, et c'est intéressant de pouvoir voir que ça se recoupe.
C'est ça, et après on verra après dans l'émission qu'on arrive à créer de la valeur avec, même de la valeur financière, on parle de la monnaie sauvage, mais là on est à l'étape de collecte, et donc peut-être je vais laisser Adèle et Deloïe qui sont à l'atelier expliquer la suite de ce qui se passe.
Ouais, très curieuse Adélaïde que tu nous en dises plus sur comment vous transformez cette matière première en divers objets.
Alors du coup, nous on récupère les bouchons que les associations partenaires nous donnent. Ensuite, une fois à l'atelier, on aura plusieurs étapes pour les revaloriser. Donc du coup, la première étape, c'est de les laver. Donc à l'atelier, on a un vélo machine à laver. Donc c'est une machine à laver qui a été adaptée avec un vélo d'appartement. Et du coup, on va venir pédaler pour laver les bouchons, pour essayer de les laver avec le moins d'énergie possible, d'énergie électrique, tout ça.
Tous les jours, vous lavez des bouchons avec l'énergie de votre vélo ?
Pas tous les jours, mais dès qu'on doit le faire, on le fait avec le vélo, oui.
Voilà, l'utile à l'agréable, on fait un peu de sport.
C'est ça, un peu de sport.
Sauvage, une asso créée par un sportif, avec des sportifs.
Beau slogan.
Et donc une fois qu'ils sont lavés, on va venir les trier. Donc là, on va trier par couleur et par forme. Donc dans les bouchons de bouteilles, on retrouve principalement deux matières, le PEHD, donc polyéthylène haute densité, et le PP, polypropylène. Donc ces deux matières, elles n'ont pas exactement les mêmes températures de fusion, etc. Donc c'est pas les mêmes propriétés, donc on va pas venir les traiter de la même manière, donc c'est pour ça qu'on les sépare. Et ensuite, on va séparer aussi les couleurs, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir faire des effets de couleurs, de faire des mélanges, des choses sympas.
En parlant de couleurs, est-ce que ça veut dire que tu as les bouchons rouges Coca-Cola, les bouchons verts Perrier ? Bon, alors je cite plein de marques, je ne sais pas si c'est OK.
C'est Radio Galère, hein, c'est une radio libre.
Et en plus, c'est pour les critiquer. Donc.
C'est vrai, oui, parce qu'ils ont leur part de responsabilité dans tous ces déchets qu'on retrouve dans la mer. De plus en plus, au lieu de responsabiliser, enfin d'accuser le consommateur qui va jeter ses déchets dans la nature au lieu de les mettre dans la poubelle, on responsabilise de plus en plus les industriels. Donc là, concrètement, vous voyez ces bouchons qui appartiennent à ces gros industriels.
Oui, c'est ça. On retrouve le gros Coca-Cola sur le bouchon rouge. Alors vraiment, on voit vraiment les marques. Et du coup, oui, il y a plein de couleurs, plein de bouchons, plein de marques. Enfin, il y a de quoi faire.
Mais c'est vrai que je pense 98% de nos bouchons rouges, c'est du Coca-Cola.
Oui.
Et le problème, c'est, pour rebondir sur ce que disait Adé, c'est que certains bouchons de Coca vont être en PE. Donc ceux fabriqués à côté de Marseille notamment.
PE qui signifie ?
Polyéthylène haute densité, comme elle soulignait. Et les d'autres bouchons de Coca qui vont être en polypropylène, et donc une autre matière, Alors que c'est foncièrement un peu les mêmes bouteilles, c'est juste des chaînes de prod différentes. Mmh. Ce qui nous amène à compliquer le tri.
Et c'est là où, en tant qu'ancien, ancienne personne ayant travaillé dans une entreprise qui produit des bouteilles à grande quantité, même si je n'y ai passé que 3 mois avant de démissionner justement pour ces raisons-là, ça invite un peu sur la question, à se poser des questions sur notre responsabilité, et y compris celles et ceux qui nous écoutent, quelles que soient les activités que vous pouvez avoir. Il y a la responsabilité qu'on peut avoir en tant que citoyen qui jetons une bouteille, pas forcément dans une bonne poubelle, et ensuite ça finit à la mer, mais il y a aussi la responsabilité par le travail, où est-ce que le travail que l'on a amène à produire cette bouteille qui finit dans la mer là. Et c'est là où on essaye aussi de montrer que la responsabilité, elle se trouve à différents niveaux. Et l'approche que vous apportez, c'est une approche sensible, où on voit à la fin, bah, ça finit dans la mer, et avec tous les dégâts que ça peut provoquer. Donc c'est questionnant, quoi, au moins.
Ouais, c'est très juste ce que tu dis, effectivement. On a aussi sa part de responsabilité dans son activité au jour le jour et non pas que dans ce qu'on consomme. Mais alors, si on en reprend, on retourne sur le processus de transformation de cette matière plastique, Adélaïde, est-ce que tu peux reprendre là où tu en étais, s'il te plaît ?
Alors, une fois que tous ces bouchons sont triés, on va venir les broyer, donc pour les transformer en petites paillettes, en petits copeaux de plastique pour aller stocker plus facilement. Bon, c'est très simple, dans une machine, un broyeur, et ça broie tout seul. Et ensuite, une fois qu'on a cette matière première, on va pouvoir venir la transformer. Donc à l'atelier, on utilise principalement 2 procédés de transformation. Donc la première, ça s'appelle la thermocompression. Donc c'est pas très compliqué. On va venir disposer les copeaux sur une plaque en métal. On les dispose, on met un cadre autour pour vraiment définir la hauteur des plaques. On remet une autre plaque par-dessus, on met au four, un peu comme un gâteau en fait. On met au four 200 degrés, 1 heure, enfin vraiment comme un gâteau. Et ensuite, une fois que c'est fondu, la matière, donc elle aura fondu, on sort cette plaque, on vient la presser pour vraiment agglomérer la matière fondue. Et du coup, ça va nous donner des plaques. Donc nous, on varie différentes épaisseurs, autour de 4-5 mm. Et après, avec ces plaques, on va pouvoir venir faire plein de choses. Donc notamment, on va ensuite passer sur une autre machine qui s'appelle une CNC. Donc une machine qui va venir découper les plaques avec des formes qu'on aura programmées avant, des formes de découpe. Donc là, on pourra venir imaginer plein de choses, plein de produits, donc découper toutes les formes possibles et inimaginables.
Et donc parmi ces formes, j'ai vu sur votre site internet qu'il y a par exemple des petits coraux, des petits poissons, donc notamment des bijoux. Donc ça, c'est plutôt des produits pour le grand public. Quels sont les autres produits que vous faites avec ce plastique ?
Alors oui, tout à fait, on fait pas mal de bijoux, donc des boucles d'oreilles principalement. Et après, on va pouvoir venir aussi faire des trophées, donc avec cette même procédé. Donc on vient découper des formes un peu plus grosses, plus volumineuses. Donc on fait des trophées pour des remises de compétitions de sportives, pour des entreprises, des remises de prix, des choses comme ça. Notamment.
Bon, on essaie de se servir du sport aussi comme un vecteur de sensibilisation, de communication. Donc on fait des médailles pour le Monte Cristo, qui est une course connue de natation à Marseille. On en a fait pour la fondation du RCT à Toulon. On a fait le trophée de l'Olympien de l'année pour Alexis Sanchez l'année dernière pour Puma. Voilà, on pense que on en a un peu marre en fait de voir toujours en entreprise ou dans les clubs sportifs des médailles, des coupes qui sont faites au bout du monde, qui n'ont pas d'histoire, voire dans des mauvaises conditions. Nous, on a des produits qui sont artisanaux, engagés, locaux. 10% de nos ventes sont reversées aux assos partenaires. Donc voilà, on incite aussi, nous, à une consommation responsable, les particuliers, via leurs achats de Noël, boules de Noël, de la déco, des bijoux, mais aussi les entreprises et les clubs sportifs, à avoir une consommation qui raconte quelque chose et qui participe à leur échelle et à la nôtre à aider à dépolluer un petit peu les Méditerranées.
Et alors, comment ça se passe avec tous ces acteurs-là ? Vous discutez avec l'OM, vous discutez avec tous les acteurs que t'as mentionnés en disant on vous propose une coupe alternative à proposer. Est-ce que c'est l'occasion de dire et en même temps on peut faire un plaidoyer de la sensibilisation aux personnes qui travaillent pour l'organisation à laquelle vous vous adressez ? Comment est-ce que vous arrivez à les adresser ?
Alors oui, effectivement, on discute avec l'OM, on était à la commanderie il n'y a pas très longtemps, on discute avec le RCT, on discute et des clubs sportifs aussi plus petits. Et les entreprises, notamment, aussi nous sollicitent beaucoup pour les trophées. Nos trophées, ils ont été vus un peu dans quelques événements. Ils ont été vus, Puma, l'OM, c'est pas un petit événement, c'est beaucoup de visibilité. Donc, il y a des gens qui maintenant, de plus en plus, nous sollicitent. Et je suis pas à l'atelier, mais je pense qu'à l'atelier, chaque semaine, il y a des demandes de trophées qui arrivent. Et après, au-delà des trophées, on essaye aussi, nous, d'amener un côté sensibilisation. On a une recyclerie mobile, on pourra en parler, qui est un outil merveilleux, qui est une sorte de food truck du recyclage, qui permet d'aller se déplacer auprès de populations à sensibiliser, que ce soit des écoles, des particuliers, des entreprises. Et donc là aussi, nous, quand on parle à un club sportif, quel qu'il soit, on nous dit, on peut aussi venir sensibiliser vos adhérents, vos supporters, etc., avec cet outil-là, qui fonctionne bien et qu'on peut greffer à d'autres événements, partenariat avec des assos. Donc, oui, concrètement, on n'est pas juste là pour vendre, on est aussi là pour... on est une asso pour sensibiliser et aussi financer les dépollutions, donc en reversant, encore une fois, ces 10% de tout ce qu'on crée comme chiffre d'affaires aux assos partenaires. Donc, on essaie de créer un écosystème vertueux et de sensibiliser pour que la consommation responsable... passer du geste de ramassage jusqu'au fait de financer les dépollutions, et c'est de passer par nous, et que ça SM un petit peu partout.
Oui, c'est ça, c'est qu'on n'est pas juste sur un objet, un trophée, un bijou, mais on est vraiment sur un produit qui va véhiculer des valeurs, de la préservation, faire attention au plastique, à la consommation, et aussi un objet qui va avoir une histoire, puisqu'on peut retracer le fait que ce soit du plastique du littoral méditerranéen qui a été récupéré par des personnes comme vous et moi, et qui a été transformé dans cet atelier à Aix-en-Provence. Donc ouais, c'est une boucle vertueuse aussi d'avoir ces produits-là dans son quotidien.
Ouais, d'ailleurs, j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent, donc c'est-à-dire qui n'êtes pas au volant, à regarder sur internet Trophée Sauvage Méditerranée. Vous allez voir, il y a le Trophée Monte Cristo, il y a l'Olympien de l'année avec un trophée Puma qui a été remis à Alexis Sanchez. Enfin, ils ont vraiment ils sont magnifiques, et c'est sûr qu'ils dégagent une histoire, une authenticité beaucoup plus folle qu'un truc en plastique justement classique qui vient d'être produit, où on se dit de toute façon c'est fait à la masse, sans histoire comme il y en a tant d'autres. Et puis toi tu disais que c'était bénéfique, il y a presque quelque chose de doublement bénéfique, il y a la partie recyclage et via le sport où le soin se fait à deux échelles et à différents endroits. Tout à l'heure, Adélaïde, quand tu disais que tu pédalais pour pouvoir nettoyer tout ça, il y a d'un côté le côté on recycle, on récupère, on revalorise, et le fait que c'est une pratique physique qui est saine pour la santé, et c'est, j'imagine, un double discours que vous devez porter, de dire on prend soin et on régénère de manières différentes.
Ouais, de façon générale, c'est le double discours qu'on peut porter, mais de façon plus large même, je dirais, arrêtons, ou dans la limite du possible, on peut arrêter d'utiliser de l'énergie électrique ou de l'énergie dont on ne maîtrise pas la production, alors que nous, humains, qui allons à la salle de sport et faire pédaler sur des vélos ou autre, au final, cette énergie, elle est gaspillée, elle peut nous servir à bien d'autres choses. Et c'est ce qu'on essaye aussi de montrer à travers l'utilisation et la création de ces machines de recyclage.
C'est une transformation des imaginaires.
Et d'ailleurs, dans la recyclerie mobile, là aussi, pour sensibiliser et pour rendre ça un peu ludique, on a un vélo broyeur, on a une petite machine à laver manuel, et voilà, on amène aussi ce côté un peu ludique parce qu'on est convaincu qu'on apprend mieux en s'amusant, et c'est le cas à la recyclerie. Et quand il y a du vélo qui est fait à l'atelier, c'est quand il fait 40 degrés, c'est un peu chiant, mais sinon c'est un côté sympa de travailler en faisant du vélo pour laver du plastique qui vient des plages. Voilà. Et nous, on est assez fiers de tout le process dans son entièreté, et on est fiers des produits qui en ressortent, et on veut aussi que les gens qui les achètent soient fiers de ce petit geste de consommation responsable.
Et qui se sentent surtout concernés, et qui peuvent, eux, agir à leur échelle. C'est-à-dire que c'est une technologie qui n'est pas... Faire du vélo, c'est tout le monde, ça parle à tout le monde. Actionner un moteur, faire tourner une machine, ça parle à déjà un peu moins de monde.
Et alors du coup, puisque tu nous parlais de cette recyclerie mobile, tu l'as mentionné, donc ça prend la forme d'une sorte de camion qui se déplace sur le territoire marseillais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus des actions de sensibilisation que vous menez avec ce camion ?
Alors en fait, la recyclerie mobile, elle est née dans un souci de place. Donc à savoir qu'on a un petit atelier de 50 mètres carrés à Aix-en-Provence. Donc on a tendance à pousser un peu les murs pour s'organiser, donc l'accueil du public est forcément impossible. notamment des scolaires. Donc nous est venue l'idée, l'idée n'est pas, on n'a rien innové, on a surtout, on s'est inspiré de confrères recycleurs aussi, qui donc se déplacent avec des machines. Donc on s'est dit, on va mettre des petites machines dans un camion et on va aller se déplacer dans les écoles, sur les points de ramassage, et directement montrer aux gens comment, qu'est-ce qui se passe après. Donc par exemple, dans le cas d'un ramassage, les gens vont ramasser les déchets. Ils arrivent ensuite avec leurs bouchons plastiques, ils vont venir les nettoyer, les broyer à l'aide d'un vélo broyeur, comme le disait Sébastien, qui a été conçu d'ailleurs par Adélaïde. Et ensuite, ils vont l'injecter et le transformer pour que ça devienne une toupie. Et donc, ils vont vraiment avoir conscience de du devenir du déchet, en fait. Ils vont pouvoir manipuler, créer eux-mêmes, à partir du déchet, un objet fini à valeur ajoutée.
C'est ça, donc les personnes peuvent voir de la matière se transformer sous leurs yeux en passant de l'étape du lavage, du broyage, de cuisson du gâteau, oui. Comme tu nous expliquais tout à l'heure, Adélaïde, et aussi de façonnage pour arriver jusqu'à cette toupie. Ça prend combien de temps, ce processus ?
Alors, ça dépend en fait de la quantité qu'on gère, mais disons qu'en général, on a pour l'instant un moule à toupies, donc ce qui va nous permettre de faire des toupies plastiques. Donc si on prend le début de la chaîne, on va devoir trier, nettoyer les quelques bouchons, puis les broyer, puis les chauffer pendant 5 à 10 minutes pour les mettre en forme, sous forme de toupie. Donc en tout, on peut compter 20-25 minutes pour réaliser son objet.
Ok, d'accord. Et donc, comment on fait pour voir cette recyclerie mobile en action ? Est-ce que on peut voir les prochains passages sur Marseille ? Est-ce qu'on vous appelle ? On demande si vous pouvez intervenir sur un événement ?
Alors déjà, on a tendance à le souligner, on bosse avec beaucoup d'associations. Et par exemple, on peut se rendre sur les lieux de ramassage, ce qui va être le cas en décembre prochain, pour ramassage avec Clean Macalanque, en février prochain pour le Loft à Bonne Mère avec un déchet par jour. Et à côté de ça, on peut nous contacter directement sur l'adresse de contact, et là on s'organise ensuite pour venir sur site et trouver la meilleure façon d'animer une recyclerie.
Ok, et de la même façon, j'imagine que si on veut vous commander un trophée, on passe par le site internet, voilà. Vous n'avez pas de point de vente de vos bijoux sur, en physique ?
Si, on a effectivement une boutique en ligne pour les pros et pour les particuliers, et après, là, tous nos bijoux sont vendus actuellement au Flamant Vert, rue Marengo, donc à côté du Courju, qui est une boutique zéro déchet, qui organise des ateliers, etc. Et là, vous pouvez trouver un petit corner sauvage avec, je crois, l'ensemble de la collection de bijoux et de la déco aussi. On fait de la déco sauvage, on a des petits tableaux Bonne Mère en mode un peu pop art. Donc tout ça est trouvable au Flamant Vert à Marseille.
Et pour aussi faire le lien entre les émissions qu'on fait, puisque c'est tout le but de cette forêt des possibles, de montrer qu'il y a une forêt d'initiatives, on parle là d'un déchet par jour et de recyclerie, et il faut savoir que nous on les a reçus, un déchet par jour, c'était en avril 2022, donc vous pourrez retrouver l'émission qui avait été enregistrée à ce titre-là, où on nous avait présenté comment est-ce qu'ils organisaient des grands ramassages sur les plages, et notamment d'un Anglais un peu fou qui s'était dit, si jamais on raconte l'histoire d'une personne qui ramasse un déchet par jour, eh bien on va pouvoir rendre la ville de Marseille propre. Et son objectif, c'était qu'un jour il puisse fermer son association, puisqu'il n'aurait plus de raison sociale, étant donné que ça serait propre, même si on n'y est pas encore tout à fait. Mais sachez que ça existe. Et en matière de recyclerie, on a aussi reçu le réseau des recycleries et des ressourceries du PACA et du Recyclodrome. Et c'est là où on a aussi envie de pouvoir vous montrer, auditeurs et auditrices, que même si on fait une seule action et qu'on se dit c'est tellement vaste, c'est impossible, quand tout ça se recoupe, eh bien ça, c'est en mesure de pouvoir faire un système qui marche. Et c'est l'enjeu qu'on a envie de vous montrer, de se dire, regardez, chacun à son échelle fait quelque chose, et c'est possible de transformer la société. Oui.
Oui, t'entends parler de réseau, ça me fait beaucoup penser au réseau dans lequel on est. C'est le réseau des recycleurs, donc des précieuses plastiques. Donc on est quand même nombreux en France. C'est un mouvement né en 2015 et qui a beaucoup, enfin aux Pays-Bas, et qui a beaucoup évolué dans le monde et notamment en France. Donc aujourd'hui on est beaucoup de recycleurs à travers la France. Donc peu importe d'où vous venez, sachez qu'il y a sûrement un atelier à côté de chez vous. Il y en a plusieurs à Marseille. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Precious Plastic, avec un bon accent anglais, pour un peu en découvrir plus sur comment recycler du plastique de façon écologique et économique.
Et on continuera à parler de ces questions juste après la pause, où on va continuer notre fil, où on a commencé par savoir comment est-ce que, quelles étaient les valeurs que vous portiez, les engagements que vous aviez envie de porter à la société, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, qu'est-ce qui se passe chez Sauvage Méditerranée, et ce qu'on évoquera après la pause, c'est de savoir comment est-ce que ça transforme la société à son échelle. Et Claire, tu continueras à mener d'une main de maître cette émission. Je suis assez bluffé pour cette toute première où on dirait que tu fais ça depuis maintenant 3 ans. Merci Sébastien, Louis, je me trompe, et Adélaïde, non, je ne me trompe pas. On se retrouve juste après la pause musicale que vous avez décidé de nous faire écouter et qui est
Jimmy Cliff.
À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur Radio Galère en direct de 19h à 20h dans l'émission de La Forêt des Possibles qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de transition écologique et solidaire de Marseille et sa région en partenariat avec Ecoforum. Une émission dont le but est de montrer que nous avons toutes et tous une place dans une société pour vivre dignement, et ce même quand on se dit que tout est foutu ou quand on se dit qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on peut se poser des questions qui sont les questions que nous nous posons et que tous nos invités se posent semaine après semaine, qui montent des projets qui transforment la société et surtout qui sont connectés en réseau les uns avec les autres et qui sont en mesure de faire advenir une société qui sera pérenne et qui transforme aussi nos imaginaires. C'est ça un peu ce qu'on est en train de faire semaine après semaine en donnant la parole, c'est de montrer qu'il y a d'autres façons de faire société, d'autres façons de vivre et de se percevoir. Et à ce titre, on a dans le site de la Forêt des Possibles un site qui s'appelle l'Arbre des Imaginaires, qui est une grande ressourcerie d'informations, de cultures, de propositions, de personnes qui est à la disposition de celles et ceux qui regardent pour nous inspirer. Et là, les personnes qui nous inspirent ce soir sont toujours vous trois. Et Claire, tu avais envie de pouvoir continuer les questions que l'on se posait juste avant la pause, et cette fois avec un prisme un peu plus général. Comment est-ce qu'on transforme la société ?
C'est ça. Alors, donc, on a vu tout ce que vous faisiez au sein de Sauvage Méditerranée, les bijoux, les trophées, la recyclerie mobile, mais il y a aussi un pan important de votre activité qui concerne la monnaie sauvage. Alors, quand on s'était vu, Seb, au So Good Festival qui avait lieu ici à la Friche Belle de Mai en septembre dernier, tu m'avais montré ces jetons en plastique, ces tokens que tu sors de ta poche en ce moment même, si tu les trouves. Et vous aviez fait un partenariat avec le festival. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la nature de ce partenariat et comment cette monnaie sauvage, cette monnaie alternative s'intègre dans votre écosystème avec les acteurs du commerce, enfin, les acteurs et les commerces du territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit ?
Bien sûr, et je vais repartir du terme de marin, les imaginaires. Et si on s'imagine une société un peu différente, qu'on ferme les yeux, on imagine une société où demain on pourra aller participer à un ramassage de déchets, ramasser des déchets dans la plage, donc a priori faire plutôt une bonne action. Aller échanger ces déchets contre une pièce de monnaie sauvage, tant qu'à faire, qui est fabriquée par nous-mêmes dans notre atelier avec des plastiques qui viennent des plages, et cette monnaie, aller la dépenser dans un commerce engagé qui prône la consommation responsable. Et ça, c'est un peu ce qu'on essaye de créer, c'est-à-dire un monde ou une économie où on peut à la fois dépolluer et consommer responsable en ayant des avantages financiers, parce qu'on est dans un monde qui est financiarisé, à dépolluer. Donc c'est ce qu'on a fait notamment avec le So Good, très beau festival où on était partenaire et lauréat d'un de leurs prix et qui nous ont beaucoup soutenus, à la fois financièrement et aussi en nous faisant confiance sur cette partie-là de paiement en déchets. On leur a dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas au So Good payer des places avec des déchets qui viennent de la rue. Donc on a proposé ce principe et le So Good a mis à disposition quand même 200 places pour des personnes qui pouvaient arriver à la friche avec leur sac de déchets ou une bouteille remplie de mégots, ou un appareil électroménager, électronique qui venait de chez eux. Donc en fait, des déchets de la rue ou de l'électronique de chez eux qui traînent dans un tiroir, et contre ça, ils gagnaient une place pour le festival. Et si c'était déjà leur place, ils gagnaient un petit jeton de monnaie sauvage qui leur donnait accès à un soft gratuit ou une réduction sur le merchandising. Donc c'est vraiment se dire, ramasser des déchets dans la rue, faire en sorte que ces déchets finissent pas dans le ventre d'un poisson, dans les calanques, ça permet d'avoir un avantage financier dans des commerces de consommation responsable ou des festivals engagés ou des choses comme ça.
Oui, et au-delà de l'avantage financier qu'on peut en tirer, c'est aussi de valoriser cette action qu'on va faire, qui est de ramasser ses déchets, prendre conscience des déchets qu'on a chez soi ou qu'on peut produire pour changer ce récit du déchet qui traîne, qui est sale, qui est dans la rue. Là, on le transforme en quelque chose de positif, puisque on en tire profit, même si on n'aime pas trop ce terme de profit qui est très lié à l'argent. Mais bon, on parle de monnaie sauvage, donc ça fait sens.
Voilà,
aussi.
Et puis finalement, si on va au Flamant Vert, on a une réduction sur un atelier zéro déchet grâce à une pièce de monnaie sauvage, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est les premiers à nous suivre sur ce projet avec le So Good. Clairement, en fait, on gagne de l'argent, mais surtout on apprend à vivre d'une manière différente en faisant du zéro déchet, en fabriquant ses cosmétiques. Donc oui, c'est financier, parce qu'aujourd'hui on peut pas vivre, c'est compliqué en dehors du système financier, mais par contre, voilà, on amène c'est concrètement des réductions, ou peut-être demain des bières offertes, ou des fromages offerts, ou des produits locaux offerts, parce qu'on a ramassé des déchets dans la nature.
Et justement, là on parle de tout ce qui est financier, et La semaine dernière, on est passé par le Black Friday, donc on a vu les
magnifique.
Offres magnifiques Black Friday, hein, les offres promotionnelles à profusion qui annoncent la.
C'est une émission parallèle ou quoi là?
De quoi on va parler? Mais tu vas voir, on va raccrocher le sujet avec Sauvage Méditerranée. Et donc c'est ça, il y a eu Black Friday la semaine dernière, on en a mangé à toutes les sauces. Là, dans deux jours, on va ouvrir la première fenêtre du calendrier de l'Avent. On va se prendre les Maria Carré, les sapins, les guirlandes dans les rues. Bon, j'avoue que j'ai un petit côté natalophobe, un terme
t'adore
que j'ai...
les guirlandes, quand t'es venu présenter Tax and Roll, tu étais hyper fier d'avoir des guirlandes sur ton vélo, donc on a droit aux aider.
Guirlandes que j'ai gardées pendant deux semaines d'ailleurs sur mon vélo, c'est vrai. Mais c'était pour la bonne cause. Non, là aujourd'hui, c'est vrai que Noël arrive à grands pas et on sait que c'est une fête souvent décriée comme étant commerciale parce que... Bah, voilà, on doit acheter des cadeaux pour faire plaisir à sa famille, mais il y a aussi tout l'impact écologique, environnemental de ces traditions qui vont être tous les transports en voiture, en avion pour rejoindre sa famille, l'alimentation aussi, gros pôle de dépenses pendant les fêtes, puisque on va consommer très riche, de la nourriture abondante, beaucoup de viande, beaucoup de gaspillage alimentaire, beaucoup de plastique produit à cette occasion. Va y avoir aussi tout ce qui est transport des cadeaux, l'électricité aussi avec les guirlandes dans les rues. Aujourd'hui, les valeurs qui sont autour de Noël, ça va être les valeurs familiales, la magie de Noël, comment Sauvage Méditerranée, vous vous inscrivez dans cet écosystème parce que vous avez des actions spéciales aussi sur ces événements?
Alors nous, effectivement, nos produits, on les commercialise. Donc oui, il y a un aspect, on gagne de l'argent. Près de 10% de ce qu'on gagne est reversé aux assos partenaires. Là, pour Black Friday, on n'est pas fan de cette messe de la surconsommation et on est plutôt allergique à ça. On s'est dit, on va quand même faire Black Friday à notre manière. Au lieu de verser 10% des bénéfices aux assos partenaires, on va verser 100% sur tout ce qui sera vendu le vendredi pour Black Friday. Donc c'est une manière d'amener les gens aussi à faire un geste utile sur la consommation. Encore une fois, nous, quand on achète un produit qui vient de chez nous, on finance une partie de la dépollution des assos de Méditerranée. Donc voilà, c'est ce genre de geste. Et après, là, pour Noël, Adélaïde a fabriqué des magnifiques boules de Noël qui sont soit des animaux marins, soit les classiques sucre d'orge, flocons de Noël et petits sapins. Nous, ce qu'on veut, c'est pas que les gens qui ont déjà des décos de Noël achètent en plus des décos sauvages. C'est que si les gens ont besoin d'acheter des décos de Noël, autant les acheter chez nous, consommation responsable, circuit court, engagé, et qui financent les assos. Après, on n'est pas à prôner la surconsommation. C'est nous, le jour où on met la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus de déchets, on ira tous faire autre chose, on sera tous très contents. Mais voilà, c'est pas le. Mais forcément, on préfère que les gens consomment responsable chez nous que du Made in China qui n'a pas de sens.
Et justement, pour la période de Noël, il me semble que vous avez mis en place un système avec la monnaie sauvage, avec les tokens et un réseau de commerce partenaire sur Marseille.
On est en train de développer ce réseau. Pour l'instant, il y a les Flamants Verts et on est en discussion avec d'autres boutiques et commerces marseillais qui sont très sympas. On pourra vous en dire plus tard. Pour l'instant, on attend d'être sûr de ça. Mais pour l'instant, c'est surtout les Flamants Verts chez qui on peut dépenser la monnaie sauvage, qui est en test avec les Macallan qu'on déchet par jour et qui en donne à leurs bénévoles quand ils font des cadeaux en fin de ramassage, par exemple, et qui peuvent dépenser pour l'instant chez les Flamants Verts.
Et on va sur plusieurs commerces qui ont pour but de respecter la règle des 5 R, donc de réduire, de rendre à la terre, de recycler, ainsi de suite.
Refuser,
bien sûr. Le plus important.
Le plus important, refuse, single use. Mmh. Voilà, donc c'est-à-dire quand on va acheter son repas à la boulangerie.
Exactement.
Et qu'on nous propose un sac plastique.
Pour le pain chocolat qu'on va manger dans les 10 secondes qui suivent.
Ouais, sachant que la durée de vie d'un sac plastique, il me semble qu'elle est de 20 minutes.
Dans les mains d'une personne, hein, parce qu'après,
sinon c'est 400 ans.
Voilà, c'est ça. Oui,
la durée d'utilisation effectivement est très très courte. Mais voilà, comme dit Louis, on ne pourra pas l'acheter sans. sur Radio Galère, on a le droit. McDo, Burger King avec la monnaie sauvage, ce sera plutôt des commerces engagés, locaux, etc.
Voilà, et du coup, on va viser des brasseries, des restaurants, on va essayer vraiment de viser une multitude de commerces, des réparateurs de vélos, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ouais. Parce qu'à la base, en fait, avec cette monnaie sauvage qui est venue il y a quelques années, quand Manu a commencé à songer à ça, c'est qu'on a commencé à offrir des produits sauvages, donc majoritairement des bijoux.
Et on les offrait aux gens qui ramenaient des bouchons en plastique.
Oui,
qui nous ramenaient des bouchons en plastique, on leur donnait en échange 10 euros, un bon d'achat ou l'équivalent de 10 euros sur notre boutique quand on avait des stands.
Et beaucoup d'entre eux nous ont dit bah ouais, moi je consomme pas de bijoux, j'en porte pas, donc comment je fais ? Donc en général, ils prenaient pour les enfants. Oui. Ou le compagnon ou compagne, mais globalement ces gens-là avaient besoin d'un autre type de commerce pour aller dépenser cet argent virtuel, et donc c'est pour ça qu'on a créé de fil en aiguille cette monnaie, donc là bien physique, monnaie sauvage.
Et que bientôt les Marseillais pourront dépenser pour boire de la bière une fois qu'ils auront ramassé des déchets.
Faut pas teaser.
Je te dis un peu.
Est-ce qu'elle a un lien avec la roue ? Parce qu'on parle beaucoup de la monnaie locale marseillaise de la roue, qu'on aimerait pouvoir recevoir à la radio d'ailleurs. Juliane est sur les... Et dans les c'est dans les tuyaux. Est-ce que vous pouvez aussi nous préciser même ce que c'est qu'une monnaie locale pour celles et ceux qui savent pas très bien ce que ça pourrait représenter?
Alors la roue, on les connaît bien et on discute avec eux. Nous, on s'appelle monnaie sauvage. On n'est pas en soi une vraie monnaie. La roue, pour mettre 100 000 roues, il faut qu'ils aient 100 000 euros de réserve. C'est les règles des monnaies locales. Nous, on n'est pas dans ce même système. Nous, en fait, on est plutôt sur des bons de réduction de consommation responsable. Monnaie, ça parle à tout le monde, donc on emploie ce terme, mais on n'est pas une monnaie locale. Pour l'instant, on est local parce que c'est des commerces partenaires. On serait plutôt une monnaie environnementale, et on l'appelle sauvage parce qu'elle vient, elle est gagnée par en ramassant des déchets qui viennent de la nature, donc des déchets sauvages. Mais on n'est pas, voilà, on est plutôt sur partenaire, on va dire, de monnaie locale et pas concurrent et complémentaire.
Et elles sont fabriquées en déchets sauvages.
La boucle est bouclée. Forcément, la monnaie sauvage est fabriquée avec votre matière première qui sont tous ces plastiques. Et donc tu parlais des pistes d'action que vous préconisez avec les 5 R, donc refuser, réduire, réutiliser, rendre à la terre, recycler. Moi, je voulais parler aussi de Plastic Free July, qui est une initiative de Surfrider qui consiste, comme son nom l'indique, mais pour les noms anglophones, à ne pas utiliser de plastique durant tout le mois de juillet. Est-ce que ce sont des initiatives que vous avez eu l'occasion d'essayer, ou vous en avez entendu parler, vous les relayez ?
J'aurais du mal à en parler. Je trouve l'initiative géniale. C'est bien d'avoir de sensibiliser à travers ce type d'événement. On voit bien que ça marche en général les mois.
Dry January, voilà. Février sans supermarché.
Ces choses-là, voilà.
Veganuary aussi pour janvier vegan.
Exactement. Et du coup, c'est une bonne chose. Après, il faut, quand on est un peu regardant, on utilise du plastique à tout instant dans nos vies et on ne peut pas s'en passer, en fait. Ce serait une aberration que de dire qu'on va se passer du plastique. Je pense qu'il faut juste apprendre à l'utiliser d'une façon plus adéquate, en pensant recyclabilité, en pensant fin de vie du produit. Une grosse partie de la pollution plastique se crée à la conception du produit. Si on conçoit différemment, on agit différemment avec le matériau, et on peut ainsi utiliser le plastique à bon escient, enfin pas à bon escient, mais de la bonne façon, sans abîmer notre sol et notre planète.
Aberration tant qu'il est toujours possible de produire du plastique également. Enfin, si là on remonte un peu les échelles de production, le plastique qui vient de dériver du pétrole, le pétrole qui n'est à un pas infini, deux, pour il y a un certain nombre de personnes qui sont notamment autour de cette table qui font des manifestations pour qu'on n'aille pas chercher des nouveaux gisements, je parle de toi Claire, et ça nous invite aussi à poser la question vraiment en amont, de se dire si jamais on n'avait plus même la capacité de pouvoir produire autant de plastique qu'on ne le fait aujourd'hui, d'un côté ça serait tant mieux parce qu'il y aurait moins de déchets, mais de l'autre ça serait tout un tas d'activités du quotidien qui seraient vraiment à revoir en profondeur.
Alors, pour répondre à ta question sur le plastique donc pétro-sourcé, donc qui vient du pétrole, ces dernières années, on en produit toujours plus. Plus on tire de pétrole, plus on fabrique de plastique. Donc c'est un fait. Et puis, dans le cas où malheureusement, ce serait un dramatique, hein, plus de pétrole, On a développé depuis pas mal de temps les plastiques biosourcés, ce qu'on appelle issus de produits agricoles, de canne à sucre, de patates, de betteraves, etc. Et donc on continuera à en utiliser. On est tant qu'on en utilise, en fait, on a plein de façons d'en faire, donc on va constamment en utiliser. Et qui dit biosourcé dit pas recyclable toujours ou pas biodégradable non plus.
Et après, si je peux compléter, c'est le plastique. Le gros problème, c'est le plastique à usage unique, en fait. Le fait qu'il y ait du plastique dans une gourde en alu qu'on va utiliser pendant 20 ans et que le plastique a des propriétés qui sont excellentes physiquement, etc., on peut pas trop s'en passer. Le usage unique est le gros, gros problème. Et si demain, on n'a plus de plastique à usage unique, c'est ce que vivaient nos parents ou nos grands-parents, où il n'y avait pas de plastique à usage unique et ils vivaient très bien et je ne pense pas qu'ils étaient plus malheureux. Donc oui, je pense qu'on peut réinventer un peu toutes nos chaînes de valeur. Le gouvernement français, l'Europe essaie de le faire à 2040. Nous, on aimerait le faire avant ça et donc à chacun de faire sans plastique à usage unique.
Alors je vous propose un petit exercice d'imaginaire. Essayons de tracer une journée type où on n'a pas de plastique à usage unique et tout ce qu'on pourrait utiliser à usage unique, ça saute pour faire autre chose. Donc on va prendre les heures les unes après les autres et on se dit, tiens, ça j'aurais pu utiliser un usage unique et là ça saute et j'ai fait autre chose à la place. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Ça vous dit? On essaye?
Allez.
Bon, bah moi je commence, je me réveille. Je vais prendre mon petit déjeuner et sur ma table, j'ai souvent des cracottes qui sont sans gluten que j'achète souvent chez Naturalia. Sauf que il y a quand même un petit filet de plastique autour de la cracotte. Proposition, qu'est-ce qu'on fait à la place? Est-ce que je vais chez le boulanger? Qu'est-ce que j'achète d'autre?
Moi, je te recommanderais de changer ton alimentation et à la place de manger quelque chose qui soit industriel, aller chez le boulanger, comme tu disais, et prendre du pain que tu peux conserver chez toi dans un torchon et dans une boîte hermétique pour qu'il reste quand même croustillant, tu vois.
Et du pain sans gluten, tu peux trouver même.
Parce qu'au départ, c'était ça l'enjeu, hein, c'est que j'avais des problèmes avec le gluten, parce que je fais quand même attention à mon alimentation. Le but étant pas qu'on se juge nous-mêmes, mais de dire qu'est-ce qu'on peut proposer à la place. Et oui, en fait, il y a la question de pouvoir aller chercher du pain, mais ça pose aussi, et là je reconnais que parfois j'ai la flemme, hein, mais c'est bien aussi de savoir faire sauter les verrous, de se dire où est-ce que je vais pouvoir trouver un pain de bonne qualité, qui va pas me faire gonfler dès que je vais le manger si j'en mange trop, et comment je vais pouvoir le garder pour la semaine.
Et si je peux ajouter, tu vas avoir un contact social plus important avec ton boulanger ou ta boulangère plutôt qu'avec le rayon dans lequel tu prends tes biscottes.
C'est vrai.
Et tu vas donner ton argent au commerce local. Donc en plus, tu as une création de valeur sur le territoire.
Puis potentiellement, tu pourras utiliser une pièce sauvage avec le commerce local.
Pour avoir un pain au chocolat offert avec ton pain.
Ok, bon, ça c'était 8h30 du matin, quand on se réveille pour arriver à l'heure au travail. La suite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais prendre les transports, je pense que là ça va, sauf si j'ai acheté une carte à l'unité, un petit carton. Alors là, c'est pas forcément en plastique, mais il y aura même une petite...
Le carton RTM, il est plastifié. Hein. Voilà. Ouais, c'est en mode que du carton classique, il durerait pas longtemps dans la poche. Donc maintenant tu peux utiliser ta carte bleue. À l'RTM directement, donc réutilisable pendant 3 ans ta carte bleue, ce qui est pas mal, c'est mieux que deux trajets.
Ouais, et ou alors on peut juste aussi prendre une carte d'abonnement, j'imagine.
Aussi.
Voilà, j'arrive au travail, je suis fatigué, j'ai mal dormi, je vais prendre un café. Qu'est-ce que je fais?
Surtout pas de dosette, même si c'est pas du plastique, on est sur de l'aluminium, mais très très polluant aussi. Tu fais un café filtre ou un café dans un bodoum, voilà, et après tu mets le marc au compost et c'est pas mal.
Et parfois, je sais que dans certaines machines à café, ils proposent de venir avec son éco-cup, sa tasse, et de mettre son propre récipient. Et dans la machine à café, on a son café sans avoir le gobelet en carton, plastifié, mais certains le proposent.
Oui, c'est vrai, avec toutes ces alternatives au plastique, on propose des contenants en carton, mais qui sont en fait du carton et du plastique pour être imperméables. Et vu qu'il y a deux matières sur un objet, ça le rend encore plus impossible à recycler, c'est ça?
C'est ça, encore plus complexe à recycler.
Donc en fait, là où on croit être gagnant et faire quelque chose de positif en passant du plastique au carton, en fait, c'est encore pire.
Il est 19h55, on pourrait continuer la journée comme ça, à voir à chaque fois quelles sont les utilisations du plastique qu'on a. Par exemple, une bouteille d'eau qui peut être remplacée par une gourde, le fait de pouvoir acheter un plat à l'unité qui peut être remplacé par un Tupperware et éventuellement pas en plastique d'ailleurs. Ça sera même meilleur si vous l'utilisez dans, si vous faites réchauffer par exemple dans un micro-ondes, vous n'aurez pas des micro-particules de plastique qui pourraient venir se poser sur la nourriture que vous mangez, etc., etc. On ne peut pas continuer la journée jusqu'au bout. En tout cas, à chaque fois qu'on voit du plastique à usage unique, c'est une invitation de se poser une contrainte, et de la contrainte vient la création, et donc de trouver d'autres sources de solutions. Et d'ailleurs, c'est une des contraintes finalement que vous avez vu qui a mené à Sauvage Méditerranée, c'est de voir une mer qu'on aime tant, qui est le berceau de la civilisation, comme tu disais Claire, et qui finit de façon dégueulasse parce que tous les fleuves y viennent et que c'est une mer qui est presque close, et donc ça vient se concentrer, et de cette contrainte est venue une formidable création qui est celle de produire des bijoux qui sont beaux et qui donnent une authenticité assez forte, notamment quand vous faites des trophées. Bravo à ça. On vous invite, auditeurs et auditrices, à avoir noté un peu toutes les sources que vous nous, un peu concrètes sur lesquelles on peut se retrouver. Où est-ce qu'on peut aller acheter le magasin dont tu parlais, c'était
Les Flamants Verts, rue ouais. Marengo.
Donc on retient les Flamants Verts. Tu parlais d'un réseau
Prêcheuse Plastique.
Voilà. Et nous, on parle de la Forêt des Possibles et du wiki de l'Arbre des Imaginaires. Donc n'hésitez pas à aller piocher dans ces ressources d'information.
Je peux ajouter un petit mot?
Bien sûr.
N'ayez pas la flemme de ramasser un déchet. Faites-le et recyclez-le et réfléchissez ensuite à comment éviter ce déchet.
Ramasser un déchet par jour.
Exactement.
Voilà, ça rentre bien en tête. Je propose qu'on termine sur ça. Un grand merci à vous d'être venus, Adélaïde, Sébastien, Louis. Un merci à Claire pour cette grande première qui était vraiment franchement réussie.
Un pur plaisir. Merci à toi, Marin, pour l'animation et pour la co-animation, je devrais même dire.
Et oui, et à Gillian qui était en régie et sans qui ça ne serait pas possible, notamment aussi avec Sidi qui est toujours dans les couloirs de Radio Galère et sans qui la radio ne fonctionnerait pas. Merci à vous, à la semaine prochaine.
Merci à tous.
Et bonne soirée.